Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va revenir sur une annonce qui a suscité pas mal d'enthousiasme au sein de la communauté française et la communauté étrangère en général en Australie. Scott Morrison, il y a quelques jours, a annoncé la réouverture enfin des frontières de l'Australie au reste du monde. Alors, pour l'instant, il ne s'agit que d'une annonce. Ça n'a pas encore été traduit dans la loi. Et par ailleurs, pour l'instant, cette réouverture, elle ne concerne que les personnes qui ont la nationalité australienne, les résidents permanents, à la condition qu'ils soient complètement vaccinés. Reste que ça concerne quand même un certain nombre de gens, qu'il y a peut-être parmi vous certains qui espèrent pouvoir, par exemple, rentrer en France pour passer Noël en famille. Et vous avez peut-être un certain nombre de questions, car on reste dans une période de pandémie mondiale. Il ne suffit pas d'acheter son billet d'avion sur Internet et d'être à l'heure à l'aéroport. C'est un peu plus compliqué que ça que de nos jours. Alors, pour essayer de répondre à un maximum de vos questions, on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui la consul de France à Sydney, Anne Boyon. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci Grégory, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs de SBS en français et à la communauté française qui nous écoute. Comme vous le dites, c'est effectivement une bonne nouvelle, en particulier une bonne nouvelle pour nos compatriotes qui ont la chance d'être binationaux ou résidents permanents et qui peuvent donc se projeter. Il y a un certain nombre de points qui restent à éclaircir sur un possible départ vers l'Europe et vers la France pour rendre visite à leur famille au cours des prochains mois. Alors, comme vous le soulignez à juste titre, on est encore dans un contexte de pandémie, donc il y a un certain nombre de règles à respecter et il est important de se renseigner sur les conditions de déplacement. Alors, la France a un système en fait de classement des pays tiers en fonction desquels des règles sont appliquées. L'Australie est un pays vert puisque le niveau de circulation du virus y reste malgré tout assez bas. Et donc il n'y a pas besoin lorsqu'on voyage en France depuis l'Australie d'avoir de motifs impérieux. Il faut simplement pouvoir présenter des preuves sanitaire. Alors, ou bien il peut s'agir d'une preuve de votre vaccination. Alors, si vous êtes double vacciné en Australie, c'est très bien, puisque les vaccins qui sont administrés en Australie sont reconnus en France et dans l'ensemble de l'Union européenne. Ou bien, si vous n'êtes pas vacciné, dans ce cas-là, il faudra produire, et la compagnie aérienne vous le demandera à l'embarquement, un test PCR négatif au moins de 72 heures, qui vous sera aussi sans doute demandé en France lorsque vous arriverez à Roissy. Ça, c'est, on va dire, pour le voyage.
D'accord. Alors, si je comprends bien, on sait que depuis cet été, en France, il y a un pass sanitaire qui est exigé pour accéder à la plupart des lieux publics, mais aussi pour prendre l'avion, pour prendre le train, en tout cas autre chose qu'un train de banlieue. Si je comprends ce que vous venez de dire, au moment où on monte dans l'avion pour se rendre en France, à ce stade, on n'est pas encore obligé d'avoir un pass sanitaire. Le certificat australien de vaccination suffit.
Oui, ou un test PCR négatif de moins de 72 heures. Par contre, effectivement, en France, depuis cet été, et les Français le savent, il y a un pass sanitaire qui a été mis en place pour pouvoir accéder au transport de longue distance, pour pouvoir accéder à un certain nombre de lieux publics, les restaurants, les cinémas, les salles de spectacle, au-delà d'une certaine capacité. Et donc, ce pass sanitaire aujourd'hui en France, sa durée d'application a été prolongée et il est maintenant aussi exigé pour non seulement pour les adultes, mais pour les enfants de 12 à 17 ans. La bonne nouvelle, là aussi, c'est qu'il est très facile d'obtenir, avant de partir, la conversion de son certificat vaccinal australien en passe sanitaire français et donc européen. Ça veut dire que non seulement vous allez avoir, ça va vous générer un QR code qui sera utilisable en France, mais aussi dans l'ensemble de l'Union européenne si vous voulez voyager de la France vers d'autres pays de l'Union européenne. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur le site du consulat où on explique la démarche, mais ou plus directement sur un site qui s'appelle Démarche simplifiée en France. Mais le mieux, c'est d'aller sur le site du consulat puisqu'il y a tous les liens. Et donc, il vous suffit de trois choses. de votre certificat vaccinal australien, d'une pièce d'identité et d'une preuve de résidence en Australie, ce qui peut être par exemple votre attestation consulaire, ou carte consulaire que vous pouvez aussi de toute façon télécharger en ligne, donc c'est bien d'être inscrit au registre des Français à l'étranger, et vous téléchargez tout ça, et ensuite il y a un service qui le traite avec des équipes, notamment du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et ça arrive en général assez rapidement, et donc ensuite, ça veut dire que lorsque vous arrivez en France, vous êtes vraiment tout de suite, on va dire, capable d'aller au musée, au restaurant, de prendre le train.
D'accord. Donc, tout se fait en ligne et si je comprends bien, c'est rapide, c'est l'affaire de quelques jours, moins d'une semaine ?
Oui, enfin, moi j'en ai fait l'expérience pour des proches et ça se fait en quelques heures.
D'accord. Alors, je reviens un petit peu en arrière au moment où on est dans l'avion. Bon, en ce moment, les frontières en Australie étant telles qu'elles sont depuis 18 mois, des vols internationaux, des compagnies aériennes qui sont capables d'aller jusqu'en France, il y en a encore très très peu. Au-delà des exigences de la France pour revenir, est-ce que certains de ces pays ont des exigences supplémentaires ? J'ai vu par exemple que les gens qui utiliseraient Qatar Airways et qui passent donc par Doha, quel que soit le statut vaccinal du passager, ils exigent en plus un test RT-PCR de moins de 72 heures. Est-ce que...
Je ne vais pas rentrer dans les politiques des compagnies, alors parce que de toute façon, il faut regarder les conditions d'entrée en France qui sont en général répercutées par la compagnie, mais des fois, effectivement, les compagnies aériennes ont leur propre politique et peuvent exiger des choses supplémentaires. Donc ça c'est vraiment, je veux dire, aux usagers de se renseigner auprès des compagnies aériennes, parce que moi je ne vais pas, communiquer sur les critères des compagnies aériennes, puisque de toute façon, je ne les connais pas dans le détail et ils peuvent évoluer aussi dans les semaines qui viennent.
Bon, alors il faudra bien regarder tout ça au moment d'acheter vos billets. Bon, alors on est dans l'avion, on arrive en France, à Roissy, ou d'ailleurs dans un autre aéroport, pourquoi pas. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que, comme dans les aéroports australiens, on a des équipes qui vous posent des questions, qui vous prennent la température ? Est-ce qu'il y a une période d'isolation ou de quarantaine imposée, quel que soit son statut vaccinal ? Ou en gros, on est arrivé, bienvenue
Non, pas du tout. Surtout si on arrive d'Australie, donc un pays qui a le statut de pays vert. Hein. Là-dessus, vous pouvez consulter les sites gouvernementaux français ou le statut des pays, parce que le statut des pays tiers est régulièrement révisé. Mais l'Australie a toujours été un pays vert. Et donc, il n'y a aucune mesure d'isolement, de quatorzaine, d'auto-isolement à l'arrivée pour des voyageurs qui arrivent d'Australie.
D'accord. Bon, comme ça, les choses sont simples. Alors, on va passer maintenant à une autre partie de la discussion. On rappelle donc que pour l'instant, toutes les choses dont on a parlé, elles ne concernent que les binationaux et les résidents permanents qui, d'après les déclarations de Scott Morrison, pourront revenir en Australie dans la mesure où ils arriveront à trouver des vols. Bien sûr, ça reste compliqué en ce moment. Et le gros changement, en fait, dans la politique australienne en la matière, c'est qu'il n'y aura plus de quarantaine à l'hôtel obligatoire qui dure 15 jours et qui accessoirement est payante et elle est quand même pas donnée, c'est qu'on pourra faire une quarantaine allégée de 7 jours chez soi. Et ça, c'est censé permettre la réouverture progressive du pays, puisque jusqu'à présent, tout était conditionné par les places justement dans ces lieux de quarantaine. En revanche, pour l'instant, pas d'annonce particulière pour le retour des touristes. Il y a eu néanmoins quelques déclarations qui concernent les travailleurs qualifiés, mais aussi les étudiants étrangers. Ça peut peut-être intéresser une partie de notre communauté qui devrait, après les résidents permanents et les binationaux, être les prochains sur la liste à pouvoir bénéficier de cette réouverture.
Oui, alors sur l'ensemble de ces aspects, je ne vais pas donner plus de détails que ceux qui ont déjà été donnés par le gouvernement australien, parce que je n'en sais rien et donc il faut quand même être effectivement vigilant et prudent sur la réalité de ce qui va être possible. Parce que oui, ce qui a été annoncé, c'est effectivement une levée du travel ban outbound, donc en fait des restrictions qui empêchaient les Australiens et résidents permanents de sortir du territoire. Ils devaient pour cela demander une exemption et justifier de motifs impérieux, professionnels ou humanitaires. Visiblement, ce ne sera plus le cas, mais bien sûr, il faut attendre des textes qui lèvent ces restrictions. Ils ont toujours été, bien sûr, les Australiens et les résidents permanents autorisés de droit, on va dire, à revenir dans leur pays, même s'il y avait des obstacles logistiques qui étaient liés à la quatorzaine et surtout aux quotas sur les arrivées d'avions. Néanmoins, ce que je voudrais souligner quand même, c'est que ça ne va pas être visiblement une réouverture massive, puisque même si les textes qui interdisaient la sortie ou soumettaient la sortie du territoire à l'obtention d'une exemption sont levés, logistiquement, cela dépendra des États, hein, de la capacité des États à remettre en place, on va dire, des rotations aériennes fréquentes et à autoriser sur leur territoire ces fameuses quarantaine de 7 jours à domicile. Et pour ça, il y a des expériences pilotes avec des systèmes un petit peu d'autosurveillance qui sont mis en place. Donc, ça dépendra aussi des résultats, j'ai l'impression, de ces expériences pilotes et surtout de l'appétence des États et des territoires australiens à franchir cette étape. Lorsqu'on les écoute, ils ne sont pas tout à fait sur la même ligne. Non. Il y aura aussi, et on l'a entendu, bien sûr, la tentation, si des aéroports s'ouvrent, on va dire, de manière plus précoce que d'autres, bien sûr, la tentation pour les résidents qui habitent dans d'autres États de prendre l'avion, par exemple, à Sydney. Mais bien sûr, il y a aussi des conditions qui ont été émises sur leur capacité au retour à revenir dans leur état de résidence. Donc ça, c'est quand même des choses sur lesquelles nos compatriotes qui doivent être vigilants en tant que résidents en Australie, parce que tout n'est pas encore complètement clair. Et comme vous l'avez également souligné, il y a bien sûr un point, j'ai envie de dire, c'est un point important auquel nous sommes particulièrement attentifs, c'est que effectivement, ce qui est annoncé, c'est une bonne nouvelle pour nos compatriotes binationaux résidents permanents. Ça ne change en revanche malheureusement rien à la situation de nos compatriotes qui résident et travaillent en Australie sous le statut de visa temporaire. Ils sont encore relativement nombreux, il y en a à peu près 12 000 Français dans cette situation, qui travaillent pour des entreprises, qui sont étudiants, qui ont prolongé leur visa vacances-travail avec des Covid visa. Toutes ces personnes, bien sûr, n'ont jamais été interdites de sortir territoire, mais par contre ne peuvent pas y revenir puisque la fermeture des frontières reste en vigueur pour les détenteurs de visa. Et donc ça, c'est un point sur lequel on a commencé à réfléchir avec nos homologues européens, parce que il est clair, et on a vu des témoignages dans la presse, il est clair que ces personnes-là qui vivent en Australie, qui travaillent en Australie, qui payent leurs impôts en Australie, se sentent un petit peu, discriminées, puisque elles aussi, depuis 18 mois, elles n'ont pas pu aller rendre visite à leur famille à l'étranger, en France, ni recevoir leur famille. Et donc, elles aspirent aussi légitimement à pouvoir bénéficier dans les mois qui viennent des mesures d'assouplissement qui sont annoncées. Il faut voir comment, parce que c'est évident que elles n'appartiennent pas effectivement à la même catégorie, mais en même temps, elles ont légitimement les mêmes aspirations.
Vous, personnellement, Mme Boyon, que ce soit pour des raisons professionnelles ou autres, est-ce que vous avez eu l'opportunité de retourner en France depuis le début de la pandémie ?
Pour ma part, non, je ne me suis pas rendue en France parce que je pense qu'il y a aussi, parce que d'abord, on a eu beaucoup de travail ici. Et que je pense qu'il y avait aussi un devoir de solidarité et d'exemplarité voilà, vis-à-vis de nos compatriotes. Je suis consul général, donc en charge de la communauté française. Donc, il n'était pas question pour moi de faire des allers-retours pour, on va dire, des motifs, personnels.
D'accord. Je vous posais la question parce que, donc, pour l'immense majorité, on est bloqué, entre guillemets, dans ce pays, l'Australie, et même dans les grandes villes comme Sydney ou Melbourne, la densité de population est quand même très faible. On peut faire des kilomètres entiers. Moi, dans mon quartier à Sydney, je peux faire 10 kilomètres à pied sans croiser plus de 10 personnes. En France, ça fait maintenant quelques mois que la vie a repris son cours normal. Il y a des concerts, il y a des gens dans les bars, il y a des manifestations aussi, des fois, avec beaucoup de monde dans les rues. Comment faire pour ne pas être frappé d'une crise d'agoraphobie quand on rentre à Paris? Vous avez des conseils?
Non, aucun. Mais je pense que de toute façon, la principale motivation de nos compatriotes, c'est d'abord, je pense, de rendre visite à leurs proches. Et donc, ce qui compte surtout, c'est ça. Je pense que ça permettra de surmonter largement les risques d'agoraphobie. Et puis, de toute façon, sinon, ne voyagez pas. Hein. On est aussi très bien en Australie.
D'accord. Bon, merci beaucoup, Madame la Consule. Merci pour les réponses que vous avez apportées. Puis, je précise sur notre site, nous mettrons tous les liens vers les différents sites, services publics, etc., avec les informations dont on a parlé là.
Voilà, nous actualisons régulièrement notre site. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que malgré le confinement, le consulat général et nos antennes à Perth, à Melbourne, sont restés ouverts sans interruption. Donc normalement, même je sais s'il y a quelques délais d'attente, les personnes qui souhaitaient faire des demandes de renouvellement de passeport ont pu le faire, et on organisera aussi des tournées dans les semaines qui viennent pour que chacun puisse obtenir ses documents de voyage.
D'accord, et bien encore une fois, merci beaucoup Madame Boyon, à bientôt.
Au revoir.